Je suis reconnaissant au GBU d'avoir aussi accepté le sujet que j'avais proposé. C'est un sujet délicat, un sujet que je n'aborde pas sans quelques craintes, mais qui est d'importance vitale et dont l'actualité est aiguë. Chaque génération, je crois, trouve dans l'Évangile matière à scandale. Le Christ lui-même a averti qu'il serait une pierre d'achoppement, une pierre qui fait buter sur le chemin bien des gens. Et dans chaque génération, il y a comme une révolte contre un des traits de l'Évangile tel que le Christ l'a proclamé, tel que ses apôtres ensuite l'ont formulé et transmis. On dirait que toujours une arête de ce message si peu naturel tranche dans les manières courantes de voir ou de penser. Alors ce n'est pas toujours exactement la même. Chaque époque, si vous voulez, a sa difficulté. Il me semble qu'on peut dire que pour nos parents ou grands-parents, le problème du miracle, le problème d'un événement qui ne se conformait pas aux régularités naturelles, était peut-être le problème le plus scandaleux. C'est à cela qu'ils s'achoppaient le plus. À d'autres époques, pas du tout la même chose. Je crois qu'on pourrait dire qu'au second siècle de notre ère, par exemple, c'était la présence de la chair dans les œuvres de Dieu qui était l'os trop difficile à avaler pour les Grecs. Ils rapprochaient tellement la chair du mal qu'ils ne pouvaient pas comprendre que le vrai Dieu ait créé la chair, que le Fils de Dieu ait assumé la chair, se soit incarné et que Dieu promette de ressusciter la chair. C'était là ce qui faisait scandale. Il me semble qu'aujourd'hui, sans essayer de passer en revue toutes les époques, il me semble qu'aujourd'hui nous pouvons dire que ce qui fait le plus scandale, c'est l'exclusivisme du Christ. C'était mon sujet initial qui a été paraphrasé, avec une fidélité entière d'ailleurs, par les affiches que vous avez vues ou les tracts d'invitation. Le fait que Jésus se présente comme le seul chemin, qu'il exclut tout autre chemin. Chemin de quoi ? Chemin de la connaissance de Dieu, chemin de la communion avec Dieu, chemin d'une découverte du sens de la vie, de la réconciliation, de ce que finalement tout homme cherche au fond de lui-même. Que Jésus se dise le seul chemin, qu'il exclut les autres, voilà ce qui paraît d'une intolérance fanatique, d'une étroitesse périmée, c'est ce qui heurte énormément autour de nous. Le vent est ce qu'on appelle parfois l'œcuménisme, mais ça devient un œcuménisme tous azimuts. Vous savez, le mot œcuménisme, qui vient du mot grec qui évoque la terre habitée, le monde donc, l'œcuménisme a d'abord été un effort pour rapprocher les confessions chrétiennes, d'étiquettes chrétiennes. Mais aujourd'hui, on l'emploie de manière très fréquente, jusque dans la grande presse, pour parler d'efforts qui vise à unir toutes les religions. Le vieux terme, et le terme je dirais plus technique, c'est le terme de syncrétisme pour ces efforts-là. Syncrétisme qui veut dire effort pour fondre ensemble les courants les plus divers. Un congrès à la fin du 19e siècle déjà se tenait à Chicago avec des représentants des principales religions pour essayer de formuler une sorte de commun dénominateur, pour essayer de mettre en lumière une unité fondamentale sous la diversité des formes. Et vous savez qu'il y a un secrétariat à Rome qui se préoccupe très spécialement d'unification des religions, avec plus de prudence que le congrès de la fin du 19e siècle que j'évoque, mais avec souvent des déclarations qui suggèrent une convergence fondamentale. Dans une de mes lectures, j'ai pêché une phrase de Ramakrishna, un philosophe hindou qui a, je crois, occupé des places de très grand honneur dans la République indienne, qui fait dire à Krishna « Je suis présent dans toutes les religions comme le fil au travers des perles du collier. » Cette façon de penser, finalement présence du même Dieu, du même sacré, de la même foi fondamentale au travers de toutes les religions, comme le fil passe au travers de toutes les perles du collier, c'est une conception qui attire beaucoup nos contemporains. quand des porte-paroles du christianisme emboîtent le pas et suggèrent qu'en effet on peut aller dans cette direction, je vous avoue que j'ai l'impression qu'il manque un peu de courage, d'abord, et tellement dans le vent. Mais surtout, ça c'est bien plus grave encore que leur problème personnel, surtout qu'ils ne facilitent pas l'accès à la vérité. Qu'un dialogue, s'il doit y avoir dialogue, et j'espère qu'il y aura dialogue, qu'un dialogue requiert d'abord qu'aucun des angles même les plus vifs, des positions en présence, ne soit escamoté. Que vraiment la spécificité de chaque message soit reconnue. Autrement, c'est de la bouillabaisse. Ce n'est pas une véritable unité que l'on atteint, c'est une confusion. Peut-on vraiment, lorsqu'on considère les diverses voies suggérées pour la recherche de ce que j'évoquais tout à l'heure, du sens de la vie, de la réconciliation, de Dieu, et qu'on considère le message chrétien, conclure à une convergence, à une identité de fond? Il me semble en tout cas que plusieurs déclarations très formelles du message chrétien primitif s'opposent tout à fait à cette façon de voir. Nous avons des paroles de Jésus-Christ lui-même. Nous avons une parole qui est très frappante dans l'Évangile selon saint Matthieu, où Jésus s'écrie dans un moment où il est particulièrement saisi d'émerveillement devant la sagesse de son Père, un moment où il exprime une communion intense avec son Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est une parole très très forte. Et puis il y a un passage que l'on cite encore plus souvent, qui est dans un langage plus simple et plus développé que cette parole de l'évangile de Matthieu, qu'on trouve dans l'évangile de Jean, l'évangile selon saint Jean. Et je voudrais la lire maintenant. Il s'agit d'ailleurs de tout un dialogue de Jésus avec ses disciples quelques heures avant sa trahison par Judas et le commencement de sa passion. Jésus a annoncé son départ, a annoncé ces événements dramatiques à ses disciples. Et alors ils sont tout troublés. Il leur avait dit déjà bien souvent à l'avance, mais ils n'avaient pas voulu entendre. Et maintenant, alors, Jésus leur dit, ça y est, ces événements que je vous ai annoncés commencent d'arriver. Et il annonce même à Simon-Pierre, qui était le plus enthousiaste, bouillant, maladroit dans son zèle d'ailleurs, des disciples, à Simon-Pierre, qu'il le renierait dans les heures qui allaient suivre. Les disciples sont bouleversés, ne comprennent pas ce qui arrive. Et Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. la formule qui nous intéresse spécialement, bien que tout ce texte soit très très riche et important pour nous, c'est cette parole « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Vous avez peut-être vu cet emblème qui est l'emblème de la révolution de Jésus, dont on a pas mal parlé il y a un ou deux ans, surtout même dans la grande presse, l'index levé. C'est un signe qui veut rappeler l'affirmation de Jésus, un seul chemin. L'index levé est là pour indiquer l'unicité de la voie qu'est Jésus, d'après cette prétention qu'il émet ici dans le texte de l'Évangile selon saint Jean. Nous pouvons remarquer que cette prétention de Jésus s'inscrit sur l'arrière-fond de toute la prédication de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la révélation à Israël. Jésus est venu non pas pour abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir, il l'a dit lui-même, et dans son attitude à l'égard des chemins menant au vrai Dieu, il se trouve dans le droit fil de la prédication des prophètes de l'Ancien Testament. Chez eux non plus, pas la moindre complaisance à l'égard d'autres paroles que celles de la révélation de leur Dieu qu'ils transmettent. On ne trouve pas chez eux cette tolérance que l'on trouve pratiquement dans tout le paganisme ambiant pour les dieux des voisins. Les peuples affirmaient volontiers que leur Dieu était plus puissant que celui du voisin, et ils essayaient d'en faire les preuves au moment de leur guerre, car une victoire de Moab sur Ammon, eh bien, c'était la victoire du dieu de Moab sur celui d'Ammon. Mais ils admettaient parfaitement que les autres honorent leur propre dieu. Ils admettaient parfaitement l'existence d'une pluralité de dieux. Ainsi, ils étaient, disons, des hommes relativement tolérants. Mais les prophètes de l'Ancien Testament, non. Ils font un jeu de mots éloquent à propos de ces faux dieux. Ils les appellent des néants. Et les deux mots, Dieu et néant, sont proches quant aux sonorités phonétiquement en hébreu. C'est pas les dieux, c'est les Elohim. Et les néants, c'est les Elilim. Alors les prophètes jouent de ce mot. Ces Elohim sont des néants, sont des Elilim en fait. Et vous avez des passages d'une ironie mordante, plein de sarcasme. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe se moque des fabricants d'idoles. Et il y a un très beau contraste dans un chapitre de la fin de son livre entre les faux dieux, parce qu'ils sont dénoncés comme faux dieux, qui se font porter, ils se font porter par leurs adorateurs. Et puis, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui porte les siens. Je crois qu'on pourrait dire qu'il y a énormément dans ce contraste, déjà. Les faux dieux tirent au fond toute leur substance de l'homme qui les a faits. Toute leur réalité est produite de l'homme, projetée de l'homme. Et ainsi, ils sont, dans leur constitution même, portés par l'homme. Alors que le Dieu d'Israël, lui, se révèle par l'initiative qu'il prend et le secours effectif qu'il accorde aux siens, il les porte concrètement. Commençons déjà à voir ces esquisses-là, un contraste que j'essaierai d'élaborer davantage tout à l'heure en parlant de la forme épanouie de la révélation de ce Dieu d'Israël en Jésus, précisément. Mais remarquons donc que Jésus, dans son espèce d'intolérance, dans son exclusivisme, se trouve là dans la ligne des prophètes de l'Ancien Testament. Et qu'ainsi on peut très difficilement essayer d'extraire de l'Évangile, d'expulser de l'Évangile ces paroles que nous avons lues. Et les apôtres, ensuite, qui historiquement sont les fondateurs du christianisme, si vous voulez, parce que Jésus leur a confié son message, mais la tâche de le répandre et la constitution des églises, ce sont les apôtres qui l'ont accompli au regard de l'historien. Et les apôtres n'ont pas non plus varié dans leur exclusivisme. l'apôtre Pierre, dans un discours du livre des Actes des Apôtres, qui est le livre qui nous raconte l'histoire de l'expansion de la primitive Église, dans un discours du chapitre 4, dit de la manière la plus formelle qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, dit-il, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Une affirmation très nette. Et l'apôtre Paul, vous savez, Pierre et Paul sont les deux grands apôtres. Pierre, l'apôtre pour les Juifs, celui qui résume en quelque sorte le collège des 12, correspondant aux 12 tribus d'Israël, et puis Paul est l'apôtre pour les païens, pour les non-juifs, pour les goyims. Lorsque l'apôtre Paul se trouve à Athènes et qu'il entre en discussion avec les philosophes stoïciens et épicuriens qui sont sur la colline de l'Aréopage, à Athènes, il fait un discours où il ne les provoque pas inutilement, pas d'agressivité gratuite. Il commence par, au contraire, les féliciter de leur dévotion et il part de ce qu'il a remarqué dans la ville, de la présence d'un autel à un dieu inconnu. Et il prend en quelque sorte comme tremplin ce détail en leur disant, eh bien, ce dieu que vous vous êtes senti obligé de désigner, montrant ainsi une sorte d'insatisfaction avec tous les autres que vous connaissez. Eh bien, ce dieu que vous ignorez, je vous l'annonce. Celui que vous ne connaissez pas, je vous en apporte la révélation. Donc, l'apôtre Paul, qui commence donc en prenant les Athéniens de la manière la plus diplomatique possible, ne laisse pourtant à aucun moment ouverte la possibilité qu'une autre voie que celle du Christ soit ouverte pour la réconciliation avec Dieu. Il appelle le temps du miracle grec, ça a été une remarque très pertinente qui a été faite, le temps du miracle grec, vous savez, c'est l'expression de Renan pour la floraison artistique et philosophique de l'âge classique en Grèce. Il appelle ce miracle grec le temps d'ignorance. Quant au vrai Dieu, malgré la beauté, la noblesse indiscutable des philosophies idéalistes de la Grèce, c'est un temps d'ignorance quant à Dieu. Et il conclut en demandant à ces Grecs de se repentir, c'est-à-dire de changer de mentalité. Il exige d'eux une décision nette en parlant du jugement et de Jésus-Christ. L'homme que Dieu a désigné comme juge de toute l'histoire et de ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc dans ce discours non plus, malgré toute la diplomatie que l'apôtre a cru pouvoir utiliser, pas de compromis, la même netteté. Alors, il me semble impossible de considérer qu'il s'agit d'un aspect marginal seulement de la prédication chrétienne, qu'on pourrait gommer sans finalement rien changer d'autre. Il ne s'agissait pas d'ignorance, c'est pas, je me hâte de le préciser, il ne s'agissait pas d'ignorance de la part de ces hommes de la Bible. Ils les connaissaient, ces religions païennes, et dans le temps du Nouveau Testament, dans le temps de la prédication apostolique, il y avait un bel échantillon d'à peu près tout ce que les hommes ont pu imaginer en fait de religion. Vous aviez donc d'une part des philosophies déjà très élaborées, d'autre part vous aviez le vieux culte de la cité qui subsistait encore dans les villes de l'Empire romain avec le culte impérial greffé dessus, et puis vous aviez l'invasion des cultes d'Orient, vous aviez les religions à mystère anciennes et puis des cultes à mystère nouveaux qui se répandaient, toutes sortes de mysticisme. Donc vous aviez finalement un échantillon très complet des diverses sortes de religions, et il les connaissait bien, à preuve qu'il emploie parfois certains termes qui étaient assez caractéristiques des cultes que le terme même de Seigneur employé pour Jésus. Le terme de Seigneur évoque sans doute d'une part le culte impérial, car la proclamation c'était César Seigneur. À cette proclamation répond la proclamation chrétienne, Jésus Seigneur. Puis d'autre part, c'était le titre que l'on donnait dans les religions à mystère à la divinité particulièrement honoré par ce mystère, par cette espèce de secte, si vous voulez, nous appellerions cela comme ça aujourd'hui, de ce culte privé qu'était la religion à mystère. La divinité centrale à laquelle l'adorateur pensait s'unir était appelée Seigneur. Alors l'usage de ce titre Seigneur pour Jésus, vous voyez, se trouve en quelque sorte dirigé polémiquement en face de ces, en direction de ces formes religieuses, et nous discernons qu'elles étaient connues. Ce n'est pas, disons, dans la béate insouciance, dans l'impression qu'il n'y a qu'une seule religion finalement dans le monde, que ces choses ont été dites. Au Moyen-Âge, il y a eu une époque où, en Europe, on imaginait guère l'existence d'autres religions. Le problème ne paraissait pas se poser, mais au temps du Nouveau Testament, il se posait. Et on peut dire que nous sommes revenus à une situation comparable à celle du Nouveau Testament aujourd'hui, avec la fin du régime constantinien et de ses dernières séquelles, la fin du régime de chrétienté. Ainsi, les affirmations d'exclusivisme dans le Nouveau Testament sont vraiment d'actualité. Qu'est-ce qui nous choque lorsque nous les entendons? Je dis nous en parlant des hommes du XXe siècle, de cette fin du XXe siècle. Il me semble que beaucoup pourraient répondre, ce qui me choque, c'est que le christianisme ne peut finalement se targuer que d'une supériorité de degré, éventuellement. Il est peut-être plus vrai que les autres religions, plus pur, accorde davantage de place aux valeurs suprêmes, etc. Mais que de toute façon, il ne peut s'agir là que d'un plus. Et qu'il veut, à la faveur de cette supériorité, exclure radicalement les autres voies. C'est la disproportion entre l'absolu de la prétention, exclusivisme, et puis le caractère relatif de la supériorité qui me semble scandaleuse pour beaucoup de gens autour de nous. Peut-être certains ne vont-ils même pas jusque-là, ne réfléchissent-ils pas, et c'est simplement un réflexe que leur mécontentement devant les affirmations d'exclusivisme. Mais il me semble que pour ceux qui vont un peu plus loin, ce serait cela qui apparaîtrait comme, disons, le raisonnement critique à l'égard de l'exclusivisme du Nouveau Testament. Le christianisme a des points forts, peut-être, quand on compare aux autres, mais on trouve des similitudes évidentes. Voilà des relations culturelles qui marquent de ce côté, de cet autre côté aussi. Alors, on ne peut pas séparer radicalement et par conséquent retenir seulement cette voie et exclure totalement les autres. Il faut essayer de discerner au moins les convergences et de faire autant de synthèses qu'on pourra. Que vais-je essayer de répondre à cette argumentation? Première approximation, je voudrais quand même avertir contre sa facilité et dire qu'il arrive que des différences de degré, qui paraissent simplement des différences de pourcentage, aient des conséquences radicales, si vous voulez, absolues. Si vous déviez de quelques minutes d'angle, vous manquez la cible totalement. Vous n'avez fait qu'une petite erreur. Et en pourcentage, c'est tout à fait minime en visant votre cible, mais le résultat est quand même l'échec total. Il y a une différence entre le bon tireur et le mauvais tireur de degré seulement, relative, et pourtant, dans le résultat, vous avez le 100% de différence. Alors ça, c'est une première chose qu'on peut relever. On pourrait le relever aussi à propos, à l'aide d'autres images, si vous voulez, l'ordonnance du médecin. Il peut avoir une ordonnance à 99% exacte, mais s'il se trompe pour la centième partie de ce qu'il vous administre, et que si son erreur est grave, eh bien il peut en résulter la mort. Donc une petite différence, apparemment, peut avoir des conséquences incalculables. Et il me semble d'assez mauvais symptôme que le souci de la vérité, que le souci de Dieu et de la découverte de Dieu soit finalement si mou qu'il puisse finalement dire « Oh, petite différence là, ça ne peut pas compter tellement. » Oui. Est-ce que quelqu'un qui est vraiment habité par le souci de la recherche de Dieu, en soupçonnant ce que peut signifier Dieu, peut se désintéresser même d'un 1% dans la vérité qu'il a embrassée? Je crois que il y a comme un symptôme de dégénérescence dans le sérieux du souci religieux lorsque une tolérance à bon marché s'établit. Oh oui, finalement, différence seulement quantitative, plus c'est un peu quelques degrés de plus, quelques degrés de moins. Oui. Et il y a quelque chose qui me semble vraiment absent en notre siècle, tragiquement, c'est ce que l'Ancien Testament surtout appelle la crainte de Dieu. Cette espèce de secousse de l'être tout entier dans la présence de Dieu, déjà dans la pensée de cette présence. Il me semble qu'on ne raisonne pas dans la crainte de Dieu comme raisonnent facilement donc nos contemporains à propos de cet exclusivisme du Nouveau Testament. Mais j'ai bien dit que cette réponse-là n'est qu'une réponse préliminaire. Ce n'est qu'une première approximation. Parce que je crois que la réponse fondamentale, c'est la remise en cause du postulat duquel part le raisonnement que j'ai résumé. On part du postulat qu'il n'y a qu'une différence de degré au plan phénoménologique, du point de vue de ce qui paraît lorsqu'on examine côte à côte christianisme et religion. Alors je dis que même si cela était, il vaudrait la peine d'être plus sérieux qu'on ne l'est et plus passionné dans les choix à faire. Mais cela n'est pas ce que je veux essayer de mettre en lumière ce soir. C'est qu'il n'y a pas, quand on examine les choses, le christianisme originel, pas un christianisme peut-être affadi et abâtardi tel que l'histoire, hélas, on a présenté l'image, mais le christianisme originel, on se rend compte que ce n'est pas une différence de degré, mais une différence telle qu'on peut très sérieusement se demander si le mot de religion s'applique de manière correcte au christianisme. Lorsqu'on emploie le mot de religion, voyons, on suggère déjà une seule catégorie, un seul genre, et puis plusieurs espèces. On suggère déjà une espèce d'identité de fond. Mais lorsqu'on examine côte à côte le christianisme et les religions, je crois qu'on découvre des traits tellement originaux dans le christianisme qu'on est obligé alors de renoncer à ce premier point de vue trop superficiel. Alors quels sont ces traits originaux ? Je crois que le plus frappant, le plus époustouflant pour l'historien des religions, c'est la place de l'histoire dans le christianisme. Pour l'historien des religions, je dis, avant même un engagement de foi, le christianisme est le seul message qui s'accroche de la manière la plus décisive à des événements du temps historique. On a remarqué souvent que le credo mentionne Ponce Pilate, le gouverneur romain au temps de Jésus-Christ. Ponce Pilate est dans le credo. Parce que la foi chrétienne est liée à l'histoire d'une manière indissoluble et tout à fait originale. La plus vieille religion, c'est la religion du mythe qui est une religion de la répétition, où il s'agit de revenir au temps qui n'est pas un temps, au grand temps primitif, en annulant l'usure de l'année. Ainsi, c'est un effort pour neutraliser le temps. Je me rappelle une formule que j'ai lue, qui est de Lévi-Strauss, de Claude Lévi-Strauss, que le mythe est une tactique d'annulation de l'historique, parce qu'il s'agit de réactualiser le grand temps éternel. Mais dans les formes plus élaborées, les religions. C'est encore essentiellement la fuite hors du temps que l'on recherche avec les diverses voies. De toute façon, le temps n'a pas valeur positive. Il n'y a pas d'événement historique qui soit considéré comme important, décisif. Il a une valeur au mieux accidentelle, parce qu'à telle époque, le grand génie religieux, ou le grand prophète, etc., qui a démontré quelle était la voie, a paru et a enseigné. Mais la voie elle-même est intemporelle. La voie elle-même ne s'accroche pas à une date particulière. Les diverses religions proposent des voies qui sont, si l'on veut, le mot peut-être un peu trop restrictif, mais enfin je vais l'employer quand même, des techniques pour la réconciliation avec Dieu. Alors tantôt l'accent est sur le rituel, tantôt l'accent est sur un certain type de comportement, une série d'œuvres morales, souvent mélange d'ailleurs rituel moral. Tantôt l'accent est au contraire sur l'ascèse mystique, tantôt sur la spéculation intellectuelle, sur une espèce d'escalade des sommets intelligibles par l'intelligence qui se purifie. Vous avez des voies diverses qui sont proposées, mais chaque fois toujours intemporelles. Et c'est vraiment le propre de la religion de l'Ancien Testament déjà, mais suprêmement du message chrétien, que de s'attacher directement à l'histoire. Et pour nous, ça, c'est l'histoire ancienne, si vous voulez. Mais pensez-y, c'était un événement qui datait de quelques jours qu'annonçaient les apôtres dans les premiers temps, et dont ils s'affirmaient témoins, et qu'ils annonçaient comme l'événement clé pour la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Ils avaient cette audace de dire, voilà, là, à cet endroit que vous voyez, ils prêchaient à Jérusalem, et bien à Jérusalem, ça s'est passé. Nous en sommes témoins. C'est quelque chose qui n'a pas de parallèle dans l'histoire des religions. Que l'événement clé pour le salut de l'humanité soit un événement historique, daté, localisé, c'est quelque chose, oui, vraiment entièrement original. Et je ne suis pas le premier à l'avoir remarqué, hein, de très loin, c'est un thème qui était bien reconnu. Je signale en particulier un auteur qui l'a dit avec beaucoup de force et avec l'autorité de sa science. C'est Mircea Eliade. Mircea Eliade, dont plusieurs des livres sont en français et dans la collection Idées en particulier, la collection de poche que vous connaissez. Vous avez plusieurs des ouvrages d'Eliade qui mettent en valeur ce caractère vraiment unique du christianisme. Du christianisme originel, parce que lui, sans d'ailleurs le condamner, parce qu'il n'est pas, il n'a pas les mêmes intérêts que j'ai en cette affaire, ne veut pas, lui, coller au Nouveau Testament, maintenir le christianisme dans son originalité première. Alors il reconnaît qu'ensuite, eh bien, il y a eu un retour à la religion cosmique, une sorte de fusion dans laquelle les éléments originaux du christianisme n'ont pas été entièrement abolis, mais ont été comme enrobés par des éléments du mythe de l'éternel retour, de cette manière finalement d'essayer d'échapper au temps, etc. Alors, je vous cite cette référence, il y en aurait certainement d'autres. Il me semble que si on a saisi que là, je lis l'originalité évidente du message chrétien, qui est un évangile, qui est une nouvelle. Oui. Le mot évangile, on le traduit souvent bonne nouvelle, il n'est pas absolument sûr que la valeur du préfixe bon ait été encore perçue au temps du Nouveau Testament. Mais le mot, en tout cas, signifiait une nouvelle, chose qu'on annonce parce que c'est arrivé. Voyez. Le fait que l'évangile soit une nouvelle tranche avec tout ce que le phénomène religieux nous présente ailleurs. Et à partir de là peut se comprendre l'exclusivisme. C'est, me semble-t-il, ce qui nous permet de bien voir qu'il ne s'agit absolument pas d'étroitesse d'esprit ou d'intolérance, etc., parce que c'est plus du tout la même chose. Si le salut est opéré par un événement historique, localisé, daté, ça s'est passé à Jérusalem en l'an 30 ou 33, là il y a une petite indécision des spécialistes, mais enfin, peu importe, en l'an 30 ou 33, ben, c'est pas passé à Tokyo, n'importe quand, ça s'est pas passé en Amérique du Sud, ça s'est passé là. Tant que vous avez des voies, des techniques intemporelles qui sont en concurrence, alors bien sûr, vous pouvez comparer les mérites des unes et des autres et dire, en prenant un peu de ceci, un peu de cela, et elles peuvent être plus ou moins meilleures les unes que les autres. Mais quand, si vraiment le salut doit être annoncé comme un événement précisément daté, et si pour l'individu, accéder à ce salut, c'est se brancher sur cet événement, rien d'autre, alors évidemment, il n'y a que cette voie-là. Ou bien c'est vrai, ou bien c'est faux, mais il n'est pas question d'essayer de faire un mélange, des espèces de synthèses ou de compromis. Il me semble que c'est à partir de cette historicité du message chrétien que l'on peut vraiment comprendre le un seul chemin. Jésus dit « Je suis le chemin » au moment où il s'engage dans sa passion, dans son œuvre. Il ne dit pas « Je suis le chemin » simplement dans la constitution de sa personne. Et surtout pas simplement comme le maître d'une doctrine. C'est en tant qu'il va donner sa vie pour la vie du monde, en tant qu'il va opérer le salut, la rédemption, qu'il se dit le chemin. Et je crois que c'est tout à fait décisif. Alors on peut remarquer qu'en plus de l'historicité de cette œuvre qui comprend la croix et la résurrection, les apôtres en fait ont souligné d'abord la résurrection, dont ils avaient été les témoins oculaires, d'abord refusant de croire, et puis obligés de reconnaître que ce Jésus qu'ils avaient connu était revenu à la vie. Et à côté de cet événement central, il y a aussi toute la structure d'une histoire que la Bible raconte, qui en sert en quelque sorte, et qui confirme l'importance de l'histoire pour le message chrétien. C'est toute la masse des prophéties qui se sont accomplies tout spécialement dans la venue de Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection, et qui d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, continuent encore de s'accomplir de nos jours, avec des possibilités pour nous de constater que des choses dites il y a très longtemps, et dans un langage qui est généralement poétique, mais qui n'est pas le langage de Nostradamus, qui n'est pas un langage à triple ou quadruple sens, des choses qui ont été prédites se sont accomplies par un Dieu qui se révèle ainsi comme un Dieu agissant dans l'histoire. C'est Pascal qui, je crois que ça s'inscrivait d'ailleurs dans une ligne très traditionnelle à cet égard. Il avait appris l'hébreu pour pouvoir mieux lire les prophéties de l'Ancien Testament et mieux les étudier. C'est Pascal qui relevait que les prophéties sont une preuve éminente de Jésus-Christ, qu'il n'y en a pas pour d'autres grands chefs religieux, fondateurs de sectes. Ces prophéties accomplies sont quelque chose de vraiment considérable pour celui qui veut les considérer. Et c'est lui aussi qui montrait que la résurrection est quelque chose d'unique dans son attestation historique. Vous connaissez la formule, je crois volontiers les témoins qui se font tuer. On la cite parfois sous des formes diverses, hein. Je ne dis pas que je donne exactement la formule verbatim. On croit qu'il veut dire... quand des gens donnent leur vie pour leurs idées, alors il faut les écouter. Mais il va bien plus loin que ça. Parce que dans le contexte de cette formule, il dit, je sais très bien que le zèle religieux peut aller dans toutes les religions jusqu'au martyr. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de zèle religieux. Il s'agit d'un événement historique, localisé, daté, comme j'ai dit, dont ces hommes ont dit, nous l'avons vu. Nous avons mangé et bu avec ce Jésus après sa résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas donc un message religieux qui les avait enthousiasmés, une expérience subjective qui les avait tourneboulés et dont ils rendaient témoignage. C'était quelque chose dont ils avaient d'abord douté, et qui, très matériellement, s'était imposé à eux. Et ils en rendaient ensuite témoignage. L'argument de Pascal, c'est que, supposer qu'ils étaient des faux témoins jusqu'au martyr, à ce propos, c'est tout à fait antipsychologique. Des gens, pour leur cause, veulent bien mourir, mais des gens ne vont pas mourir si c'est par mensonge qu'ils affirment avoir vu, touché, etc., ce qu'ils ont vu et touché. Voilà l'argument de Pascal à propos de cette historicité de la résurrection, qui est la face de lumière, si vous voulez, de l'événement central de la rédemption dans l'Écriture. Il me semble que nous devons reconnaître que là, nous avons le trait le plus original. Mais alors, à partir de ce trait, nous en discernons d'autres. Je vais aller un peu plus vite, puisque je ne peux pas développer chaque trait comme il le faudrait. Je vous signale qu'il y a un petit livre que j'ai apporté avec moi ce soir, qui vient de sortir de presse, qui traite au fond de mon sujet de ce soir. C'est une traduction de l'allemand, un théologien allemand assez connu, Gerhard Bergmann, qui est docteur en philosophie, je crois, et qui est un conférencier apprécié, a écrit un petit livre très pédagogique. Bon, n'ayez crainte, ce n'est pas la philosophie ou la théologie allemande abstruse qu'on a parfois à lire, qui a écrit un petit livre très pédagogique sur le sujet bouddhisme, hindouisme, islam, etc., Jésus-Christ. Alors ce petit livre sera à votre disposition, je ne sais pas si ce sera tout de suite ici ou bien dans l'autre pièce, enfin, ça c'est aux organisateurs de décider. Alors vous trouverez plus en détail ce que je dois esquisser, je ne suis pas son ordre d'ailleurs, je n'ai pas exactement sous le même angle qu'il attaque le problème, mais vous aurez des choses, je crois, qui vous intéresseront. Alors, historicité. À partir de l'historicité, un second trait très original du christianisme, c'est la gratuité du salut offert, de la réconciliation avec Dieu. Ça se déduit de l'historicité, au moins en bonne part. Tant que la réconciliation avec Dieu est à atteindre par l'usage d'une technique rituelle, morale, intellectuelle, etc., alors bien sûr, ce sera une œuvre d'homme qui sera requise pour l'obtention du salut. Mais si le salut est un événement accompli, si la prédication chrétienne proclame « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même », c'est fait, c'est de l'acquis et c'est attesté par cette résurrection d'entre les morts que les témoins oculaires ne peuvent pas nier avoir constaté. Alors, si c'est ça, alors, on comprend que le salut puisse être offert à la seule foi de ceux qui entendent la parole. Ça ne va pas être automatique, parce que Dieu ne veut pas traiter les hommes comme, disons, des mineurs, pour ne pas dire des pantins. Il exige de l'homme une réponse à la parole qui lui annonce cet événement. Il veut un mouvement du cœur de l'homme. Mais, et c'est ce qu'il a choisi de faire, il peut, parce que l'événement du salut est un événement accompli, lui dire, pour être réconcilié avec moi, pour avoir la vie que je donne, cette vie éternelle, je ne te demande qu'une chose, c'est que tu acceptes cette parole, que tu te confies en moi en fonction de l'événement accompli. Et, pour employer l'image que j'employais tout à l'heure, qu'ainsi tu te branches sur lui, que tu te branches sur cet événement. Tu en reçois alors le bénéfice. Je n'existe rien d'autre que toi que ce oui de ton cœur. Voilà ce qu'est la foi, au fond, le oui de l'être intérieur répondant à Dieu. Vous savez, vous connaissez le mot « Amen ». Le mot « Amen » qui double le mot « oui ». Oui, « Amen ». Or, le mot « foi » en hébreu, c'est le mot « emuna » qui vient de la racine « Amen ». On peut vraiment dire que croire, c'est le verbe de la même racine, croire, c'est dire « Amen ». C'est dire « oui, oui, fermement, oui, s'attachant à cette parole ». La gratuité du salut s'accroche à cette historicité. Alors je sais bien qu'il y a un courant dans le bouddhisme qui a annoncé de manière très belle la gratuité de la réconciliation avec, disons, l'absolu. C'est le courant du bouddhisme Amida. Je crois que c'est le signe que le besoin de cette gratuité est dans le cœur de l'homme. Qu'au fond, si nous sommes honnêtes, nous nous rendons compte que nos œuvres sont toutes plus ou moins gangrené, et que pour nous réconcilier avec Dieu, eh bien, nous n'aurions pas trop de 10 000 vies. Et qu'ainsi, si vraiment un espoir de réconciliation peut être en nous, il faut que ce soit un espoir en la pure grâce de Dieu. Seulement, ce que l'on peut remarquer, c'est que dans ce bouddhisme Amida, c'est une très belle idée, mais que ça ne repose sur rien. À partir de quoi peut-il y avoir certitude que cette réconciliation est donnée par grâce, pure, comme un cadeau divin, royale générosité? Il n'y a aucun point d'appui dans cette théorie du bouddhisme Amida. Une très belle intuition, mais c'est seulement dans le message chrétien que la base se révèle, que le salut a été accompli, que Jésus-Christ est venu comme l'agneau de Dieu, ôtant le péché du monde. C'est une expression qui reprend le vocabulaire des sacrifices que Dieu avait institué dans l'Ancien Testament pour faire comprendre comment la chose se passerait. Donc cette gratuité est un trait très original et que nous pouvons comprendre à partir de l'historicité. Gratuité, mais si je dis gratuité, c'est que je suppose que c'est Dieu qui a accompli la chose. Et j'ai souligné l'historicité d'une action de Dieu. Alors je crois qu'il faut pousser un peu plus loin, là, et s'apercevoir que si un fait historique a tant d'importance, s'il est décisif, par distinction de toutes les œuvres humaines développées selon les techniques diverses des religions, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui est intervenu, qu'il y a eu incarnation de Dieu, que Dieu lui-même est entré dans cette histoire, la gouvernant plus seulement d'en haut en quelque sorte, mais devenant un sujet agissant dans cette histoire parmi les hommes. Ça, c'est le troisième trait d'originalité, celui de l'affirmation d'une incarnation. La personne de Jésus-Christ, cette fois, distincte de son œuvre, mais constituée pour son œuvre, comme Dieu et homme, sans confusion, sans séparation. C'est un trait que je crois qu'on doit dire original, malgré la présence du thème dans la mythologie grecque, des visites de Dieu sur la terre, prenant telle ou telle forme, ou malgré ce qu'on appelle incarnation dans la religion hindoue. Pourquoi dois-je plaider que c'est aussi un trait original que cette affirmation Dieu est venu comme un homme sur la terre. Voilà ce qu'était Jésus. Parce que l'affirmation biblique présuppose que la différence entre Dieu et l'homme est parfaitement nette et qu'elle ne sera pas remise en cause. C'est sur la base de cette différence qu'éclate alors la nouvelle bouleversante que Dieu est devenu un homme, sans cesser d'être Dieu, qu'il est intervenu dans l'histoire de cette façon. Et alors c'est nécessairement unique, c'est tellement renversant, n'est-ce pas, qu'il l'ait fait. Alors que dans les religions où l'on trouve une idée que parfois on appelle incarnation, en fait c'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire que cette incarnation. C'est Lanza del Vasto qui rapporte cette remarque d'un hindou à qui il parlait à propos de l'incarnation. Il dit, mais que Dieu soit incarné, mais pourquoi pas? Il l'a fait tant de fois. Mais vous vous rendez compte qu'avec la philosophie derrière, qui est une philosophie moniste, une philosophie d'unité du fini et de l'infini, ou plutôt d'inexistence du fini, qui n'est que maya, qui n'est qu'illusion, qui n'est que mirage, alors évidemment l'incarnation, c'est simplement la manifestation de la présence de l'absolu, comme chacun doit comprendre au fond qu'il n'est que l'absolu. Tu es cela, et l'individualité n'est qu'illusion d'optique. Alors évidemment, l'incarnation dans une telle optique, on peut la multiplier à l'infini. Elle se banalise à l'extrême. Et dans le cas des Grecs, les choses n'étaient pas aussi fortes parce qu'ils avaient divers niveaux d'être, mais fondamentalement, l'homme était divin chez eux. L'esprit, la raison était pour eux une étincelle de divinité. Et on a pu dire que le péché typique dans la mythologie grecque, c'est un péché d'infraction sexuelle entre les humains et les divins, entre les hommes et les dieux. Ce qui montre qu'il y a au fond, pour la pensée grecque, une homogénéité fondamentale entre le divin et l'humain. Alors, de cela, pas question dans la vision biblique des choses. Et je dirais que nous voyons très bien quelle a été la pédagogie de Dieu. Pendant 15 siècles, il a d'abord imprimé au peuple qui devait recevoir la visite de Jésus-Christ, parmi lequel Jésus devait apparaître, il a inculqué la différence entre Dieu et l'homme. Dans le judaïsme, ce qui prédomine, et ça a été dans le plan de Dieu, c'est l'élévation du Seigneur, du Créateur, infiniment élevé au-dessus de sa créature, pour qu'on ne puisse pas confondre, et pour qu'au moment où viendrait Dieu comme homme, alors on ne dise pas, oh ben c'est simplement que l'homme était potentiellement divin, pour qu'on ne puisse pas dire ça, et pour que le caractère unique de l'incarnation en Jésus puisse apparaître. Donc un caractère unique là encore. Et puis on pourrait encore parler d'autres thèmes. Le point que je voudrais souligner, ce sera le dernier trait que je relèverai, que je développerai, c'est que si les autres religions ou pensées, en fait, ont conclu à l'homogénéité du divin et de l'humain, de l'absolu et du monde, c'est qu'au fond, c'est la seule façon qu'ils ont vue pour éliminer le mal. Il s'agit finalement de dépouiller l'horreur et le scandale du mal, le mal moral, le mal physique, toutes les formes du mal, en disant finalement ce n'est qu'illusion. En dernière analyse, il n'y a que l'absolu, il n'y a que le soi. C'est une façon d'apaiser l'âme humaine devant ce qui est son plus grand problème, le mal. Et c'est une façon de dire, au fond, que le mal est une sorte de donnée métaphysique, une infériorité provisoire, reliée à la matière, reliée à l'illusion du relatif, qui peut être dépassée alors dans l'union avec l'absolu. Je schématise, bien sûr, je suis obligé avec un sujet aussi vaste que celui de ce soir. Je crois qu'on peut dire que, au moins, l'un des ressorts principaux de cette tentative moniste que nous trouvons pratiquement partout, c'est la volonté d'éliminer le scandale du mal. Mais en fait, il n'est pas éliminé. Il est, si vous voulez, évacué, masqué. Mais subsiste le sentiment fondamental d'indignation dont nous savons que ce n'est pas la pire des choses en nous, ce sentiment d'indignation devant le mal qui ne devrait pas être et qui tient à sa réalité aussi. Alors le christianisme, toute la Bible, mais je vois l'Ancien Testament aboutissant en Jésus, qui vraiment récapitule tout ce qui a été préparation de sa venue. La Bible, le christianisme nous présente, je crois, et là encore c'est une originalité, une dénonciation du mal qui le met entièrement sur la responsabilité de l'homme, qui en fait ce qui est venu de la liberté historique. Non pas une donnée métaphysique, dont finalement on devrait dire que c'est un caractère superficiel à dépasser. La création est bonne. Et si le mal est maintenant notre problème, c'est parce que, d'une manière responsable, nous avons choisi de vivre sans Dieu, de nous affirmer contre Dieu. Nous avons voulu être autonomes, vivre notre vie à notre guise, au lieu de rendre au Créateur l'honneur qui lui était dû, au lieu de discerner que le sens de notre vie s'accomplissait en lui, etc. Alors, cela, c'est une originalité du christianisme. Cette interprétation strictement éthique du mal, éthique historique, si vous voulez. Le mal n'est pas une réalité métaphysique qui soit comprise dans les principes de l'être. C'est un accident, le terrible accident dans l'histoire, par usage de la liberté. Et c'est pourquoi il peut être réparé par un événement historique déterminé, comme l'est l'événement de Jésus-Christ. Il y a là une correspondance stricte. Si le mal est une donnée métaphysique, alors il faut une technique de surélévation métaphysique pour dépasser ce niveau superficiel. Mais si le mal est un usage historique de la liberté, l'usage historique de la liberté de Jésus-Christ peut renverser et refaire ce qui a été défait. Ce que je remarque, c'est que cela implique que nous sommes suscités en pleine responsabilité devant le Dieu de la Bible, devant le Dieu de Jésus-Christ. Il nous traite vraiment comme des êtres pleinement responsables, alors que les autres religions ont tendu, en général, à dire à l'homme « abandonne-toi » et « laisse-toi en quelque sorte enchanter par les incantations, laisse-toi prendre par le système rituel ». La parole biblique est une parole qui, d'abord, apporte ses preuves, ses faits, résurrection, prophétie, etc., et qui appelle l'homme à la responsabilité. Change d'attitude dans ta vie. Reconnais ce qui a été fait pour ton salut par Dieu lui-même entré dans l'histoire, et devant ce fait, décide-toi. Je crois que nous retrouvons finalement là notre thème de l'exclusivisme. Si l'exclusivisme est basé sur l'histoire, sur l'historicité du salut, il implique, pour notre histoire personnelle à chacun, la nécessité de choisir. Si c'est un événement historique qui a partagé dans l'histoire humaine entre avant et après Jésus-Christ, et que nous n'avons pas donc simplement à peser les mérites de diverses techniques religieuses pour atteindre Dieu, cela signifie que pour nous, dans notre histoire concrète individuelle à chacun, il doit y avoir une décision. Et une décision qui va diviser entre un avant et un après Jésus-Christ dans notre vie. J'ai dit tout à l'heure que l'apôtre Paul, sur l'Aréopage, a demandé aux Athéniens de se repentir, de changer de mentalité. C'est de cette décision que je parle. À cause du salut accompli par Jésus-Christ, une fois, pour nous, et du fait que Dieu ne nous traite pas en automate, mais vraiment en responsable, en nous demandant de reconnaître notre responsabilité, de coupables devant lui, de fous qui avons prétendu nous passer de lui, alors il faut qu'il y ait une décision de notre côté. Devant les faits de la venue de Jésus-Christ et la clarté de ce message, ce n'est pas simplement un chant pour bercer l'âme, mais un appel à la décision, il faut que nous prenions nos responsabilités. Alors je conclue de cette manière, sans essayer de faire de pression psychologique, c'est pas du tout à ce niveau que ça se situe. Si je faisais de la pression psychologique et que même je réussisse à entraîner quelqu'un, ce serait sans valeur aucune, car il s'agit précisément de responsabilité. Jésus et les apôtres, si vous lisez leurs discours, leur manière de s'adresser aux contemporains, n'ont jamais fait de pression psychologique. Jamais. C'est au contraire un discours sobre, net, clair, avec des faits, des prophéties accomplies, etc., que vous trouvez chez eux. Alors je ne veux pas faire autrement qu'eux. Je ne veux pas essayer, si vous voulez, de trafiquer avec les émotions. Simplement vous dire, voilà, les caractères propres du christianisme font comprendre que vraiment, c'est le chemin unique, ou alors c'est simplement l'imposture la plus terrible de tous les siècles, mais je crois que les preuves sont de l'autre côté. C'est le chemin, et il faut se décider à le prendre si l'on veut trouver ce que le chemin permet de trouver, la réconciliation avec Dieu. Alors concrètement, je ne sais pas, je ne veux pas prolonger, mais c'est simple au possible, n'est-ce pas? Il s'agit d'être devant la parole qui annonce cet événement et qui dénonce en même temps la folie et la culpabilité d'une vie sans Dieu, et puis de prendre la décision devant Dieu et de le lui dire. C'est ça, prier, lui parler, le lui dire, et lui dire: je crois, en effet, je me confie en toi pour ce que tu as fait, à cause de ce que tu as fait. Désormais, maintenant, je veux prendre ce chemin et le suivre. Et vous pouvez être assuré qu'il répond à ce moment-là, et qu'il marque dans votre histoire personnelle, comme il a marqué dans l'histoire du monde, qu'il est un Dieu réel qui porte et ne se fait pas porter.